Une émission soutenue financièrement par Jean Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est super content de tous vous retrouver ce soir pour le numéro 101. Ça y est, on a passé la barre des 100. On a fait notre numéro 100 il y a 15 jours et c'est le 101e de cette nouvelle saison. En plus, début de saison, on pouvait pas mieux démarrer avec cet épisode 101. Salut Seb, comment vas-tu ?
Salut Guillaume. Ben écoute, c'est la grande forme. C'est un épisode que j'attendais avec impatience. Pour vous dire, j'ai contacté les personnes qui nous accompagnent avant l'épisode du confinement, avant l'épisode 100. Donc, on était un petit peu pris par la suite. Et c'est un vrai grand plaisir de recevoir des collègues, mais pas que, qui vont avoir pas mal de choses à nous dire. Franchement, un petit plaisir que j'attendais depuis longtemps.
Bien, on est très heureux de les rencontrer. Ils vont se présenter dans 2 minutes, bien évidemment. Juste quelques mots avant, hein, ce soir, émission donc spéciale avec invité. On vous avait dit qu'on essaierait cette année de reprendre un rythme un petit peu d'alternance entre nos émissions plus classiques, pourrait-on dire maintenant. Enfin, je ne sais pas si au bout de 100 épisodes, on peut parler vraiment de classique, mais en tout cas traditionnel en ce qui nous concerne et d'invités. Donc, n'hésitez pas, hein, vous savez, à nous contacter si vous avez des projets innovants, des projets vraiment de n'importe quelle taille. Hein. Ça peut être du projet de classe jusqu'au projet développé national, bien évidemment. On serait ravis de vous rencontrer et de vous entendre en parler dans eTeachers. Donc, on est ce soir sans notre Jeff National qui, soi-disant, a une réunion. Et bien évidemment, notre Américain aussi qui, pour des problèmes de décalage horaire, cette année encore a quelques difficultés à nous rejoindre, mais qui viendra. On les embrasse tous les deux. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Pas de sommaire ce soir, puisqu'on va consacrer tout notre temps à nos invités. Et puis, ben voilà, on va d'abord vous laisser vous présenter Charlotte et Gwenolé. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Donc, vous êtes là ce soir pour nous parler de ce qui vous fait vivre au quotidien, de votre projet qui s'intitule
Et du Move.
Ok, donc pour les gens qui, comme moi, ne sont pas encore fanboys comme Seb ici présent, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de votre projet en quelques mots, s'il vous plaît?
Pour résumer, c'est le site internet qui fait gagner du temps aux enseignants. Donc, c'est une suite applicative, oui, c'est notre slogan, et c'est une suite applicative d'applications métiers pour les profs des écoles, donc pour faire les livrets, pour faire le cahier journal, l'emploi du temps, et puis dernièrement pour la communication avec les familles. Voilà, grosso modo, c'est les trois gros outils d'EduMove.
Super. Donc aujourd'hui, EduMove, c'est une communauté, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse, pardon, principalement aux professeurs des écoles, si j'ai bien compris, hein, c'est ça ?
Oui, ouais, c'est ça. On va pas du tout vers le secondaire parce qu'il y a déjà pas mal d'outils en fait dessus. Et nous, dans la boîte, il y a la moitié de l'équipe qui sont d'anciens profs des écoles. Et du coup, on connaît bien l'école et pas vraiment le collège ni le lycée. Donc, on considère que c'est pas notre métier en fait d'aller vers les plus grands. Donc voilà, on fait ce qu'on sait faire.
D'accord, merci. Donc, on va revenir bien évidemment tout au long de l'émission sur votre projet et le contenu précisément. Mais d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu de vous connaître vous, c'est-à-dire comment vous êtes venu un matin en vous réveillant en disant « Tiens, on va développer ces… » ces outils-là pour des professeurs? Est-ce que c'est venu d'un constat de manque? Est-ce que c'est venu de quelque chose que vous aviez en tête depuis tout le temps? Vous avez démarré avec tous les deux, maintenant vous avez parlé de collègues, donc voilà, combien êtes-vous, etc. etc.
En fait, c'est parti effectivement d'un hasard. Au départ, on était à l'UFM tous les deux, en PE2.
Donc, l'ancienne INSPE.
Voilà.
Voilà.
Et on s'est rendu compte que dans notre groupe, on partageait des fiches de préparation, mais il n'y avait pas vraiment d'outils pour centraliser. C'était pas standardisé au niveau de la forme. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi on développerait pas un outil qui permettrait à la fois de mettre en forme les fiches de prép de manière standardisée, se concentrer que sur le contenu et pas sur la forme, et puis par ailleurs pouvoir le partager, voilà, de manière plus globale que seulement le groupe de PE2. Donc du coup, on a réfléchi d'abord à EduPrep. C'est parti de là. Et puis ensuite.
Et après, du coup, après notre année de formation, on a eu nos classes en responsabilité. On a fait nos premiers livrets d'évaluation. Et c'est vrai que en primaire, à l'époque, c'était déjà les compétences, mais il fallait colorier les petites cases de chaque élève avec les crayons de couleur, là, vert, jaune, rouge. On l'a fait une fois parce que, bah, comme tout le monde, on s'est dit il faut faire ça. On a été débordés, on a passé nos week-ends à faire ça. On s'est dit, bah, pour le prochain trimestre, il faut qu'on fasse autre chose. C'est pas possible de faire ça toute notre carrière. Et donc, en fait, j'avais commencé à faire un petit tableur Excel qu'on a utilisé tous les deux, où c'était tout bête, hein, comme plein d'instituts l'ont fait, où on rentrait nos résultats. Et puis, à la fin, ça nous calculait les bilans des élèves, en fait. Et puis, bah, je l'ai tellement développé dans mon école qu'un jour, mes collègues l'ont utilisé. Et puis un jour, il y en a une qui me dit, mais tu sais, ton truc, tu devrais le vendre. Tu passes tes soirées, tu passes ton temps à le modifier pour l'adapter à nos classes aussi. Tu devrais essayer. Et du coup, je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Charlotte, toi, t'étais aussi derrière en soutien. Et on a lancé le truc comme ça, en fait. Et assez vite, ça a marché parce que au bout d'un an ou deux, enfin un an et demi, on avait 30 000 enseignants qui s'étaient inscrits. Il y avait les fiches de prep, mais sur le livret, c'est ce qui a permis d'apporter les premiers fonds aussi. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, on va peut-être faire autre chose et on a créé une vraie entreprise. Ouais. Ça s'est un peu en accéléré.
Donc, en termes d'âge, de votre compagnie, de votre société, pardon, ça fait combien de temps maintenant que ça existe ?
10 ans. Ça vient de faire 10 ans.
D'accord, ok.
Et du PrEP, c'était il y a 10 ans.
L'idée, okay. Est née il y a 10 ans. Après, il y a eu, en 2012, je suis devenu auto-entrepreneur.
Ouais.
Et en 2014, on a créé la société. Donc, la société existe vraiment depuis 6 ans.
D'accord.
C'est d'ailleurs en 2014 que vous avez donné le nom des Numouv.
Oui.
C'est ça, parce que ça s'appelait EduClic avant, et le jour où on a voulu s'immatriculer en tant que société, on s'est rendu compte que EduClic, la marque, avait été déposée super longtemps avant et personne l'utilisait, et on nous a dit attention, faut pas utiliser une marque dont vous n'avez pas les droits. Donc c'est à ce moment-là qu'on a changé, en fait, parce que nous on avait lancé ça parce qu'on avait trouvé le nom de domaine EduClic.fr qui sonnait bien, on était contents, mais il a fallu qu'on change.
Ok. Moi, je serais intéressé de t'écouter, Seb, un petit peu, puisque moi, par définition, j'ai fait mes devoirs, bien sûr, avant de vous recevoir. Je me suis baladé sur le site, j'ai lu avec attention tout ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Donc, toi, Seb, qui a l'air d'être converti, en tout cas, à la cause, tu vas nous le dire tout du bien, le bien que tu en penses, mais pourquoi surtout ? C'est ça qui m'intéresse, en fait.
Alors, en fait, si tu veux, quand je vais reprendre l'idée de faire mes devoirs, d'avoir regardé, et puis j'ai regardé l'histoire, puisque pour vos 10 ans, sur le blog d'EduMove, vous avez fait un petit article qui retraçait ce que vous nous racontiez un petit peu. Et en fait, c'est en relisant ça que j'ai compris pourquoi j'ai mis un moment à venir sur EduMove, mais quand j'ai commencé à y mettre la main, j'y ai mis tout le reste aussi, parce que... Franchement, vous avez eu derrière la motivation et la création du produit qui est EduMove aujourd'hui, vous avez de belles valeurs. Et là, et ces valeurs-là, comme elles s'accompagnent d'un vécu professionnel, dans le produit que vous proposez, tout se ressent. C'est-à-dire que généralement, ne nous le cachons pas, quand on arrive sur un produit qui ressemble à EduMove, qui a dans l'idée de la gestion des messages, etc., comme fait... comme le fait du cartable, etc., puisque c'est le gros marché là en ce moment, mais Edumove est plus large. Et quand on arrive là, on se dit, punaise, mais qu'est-ce que c'est bien pensé. Là, franchement, c'est bien pensé. Parce que j'en ai utilisé d'autres, de solutions. J'ai même essayé de bricoler des solutions personnelles. Mais quand j'ai essayé Edumove, que ce soit Edulivret, voilà, je suis rentré par Edulivret. Quand je suis rentré là, oh purée, comme j'ai soufflé, comme je vous ai béni à un moment. Parce que j'ai passé des moments infernaux que j'avais racontés il y a quelques émissions avec un autre logiciel qui lui par contre, voilà, on m'avait dit c'était super. Et c'est vrai que c'était super quand je l'ai découvert, c'était vraiment génial. Et puis arrive le LSU, et je pense qu'on va en reparler. Et quand le LSU est arrivé, je me suis aperçu que ce produit était complètement décalé et qui ne me permettrait pas de remplir mon LSU. Et dans l'idée de ne pas vouloir passer mon week-end dessus, je me suis dit, bon, alors ça fait un moment que tu entends parler d'Edumove. Écoute, il y a une offre pour essayer, essaye. Alors, j'avais 25 élèves à l'époque en triple niveau, machin truc, et il fallait que je prépare mes LSU pour la semaine qui suit. J'y suis parvenu, et quand j'ai vu votre interface, je me suis dit, mais c'est penser, et là, c'est même plus un slogan, c'est une vérité. Gagner du temps, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. C'est quand je parle d'Edumove à des gens qui ne connaissent pas, j'ai fait, écoute, tu veux gagner du temps, tu peux passer par là. Alors, tu peux passer par la plateforme officielle de l'éducation nationale, mais si tu veux gagner du temps, récupérer des choses et voir à long terme, passe par Edumove.
Voilà. Alors, merci pour ce beau témoignage, Seb. Moi, j'ai du coup plein de questions qui piquent un peu là, qui arrivent. D'abord, c'est une solution qui s'adresse à qui ? Aux professeurs des écoles à titre personnel ou aux écoles directement ?
Les deux. Souvent, c'est le professeur des écoles à titre personnel qui va découvrir l'outil via la période d'essai. Et puis, éventuellement, s'abonner pendant un an à titre personnel parce que ça reste un outil qui est très abordable. Et puis, généralement, au bout de quelques mois ou d'une année d'utilisation, ça passe sur une utilisation d'équipe. Et du coup, voilà, il y a un financement par la mairie ou par l'école, ça peut dépendre. Donc souvent, c'est un peu par étape.
D'accord.
Voilà.
Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé dans mon école. C'est un décalque. C'est que j'ai commencé, j'ai fait une petite soirée présentation à mes quelques collègues. Bon, c'est une petite école, donc ça va vite. Donc l'année suivante, la directrice s'y est mise. Puis l'année d'après, on a convaincu la dernière résistante à s'y mettre. Et cette année-là, où on était tous on était tous enfin connectés, est arrivé le confinement. Et comme les collègues ont été contents. Ils se sont dit, mais je ne sais pas comment on aurait fait cette période sans ça. Et je leur ai dit, je n'ai pas envie d'y penser. Voilà. Donc oui, c'est une contamination parce que c'est efficace.
Et quel est votre objectif ? Est-ce que c'est aussi d'aller peut-être vers des instances plus hautes pour envisager des déploiements massifs ? Ou est-ce que vous le souhaiteriez ? Ou est-ce que vous souhaitez rester à la politique, j'ai envie de dire, du choix individuel du PE ?
C'est en fait sur les marchés, c'est jamais national au niveau du primaire. Mais ce sont toujours les mairies qui financent les ENT, mais en général, il y a une impulsion au niveau de l'IA. Et il y a beaucoup d'acteurs avec lesquels on bosse aussi, nous, les ENT les plus connus, on a des connecteurs avec eux. Et c'est D'accord. vrai qu'il y a tellement de monde, en fait, sur le marché de l'ENT, en quelque sorte, officiel, qui répond aux critères administratifs de ce que c'est un ENT. Nous, on préfère ne pas y aller, être plutôt en complément, comme étant la brique pédagogique, en fait, ou la brique de l'enseignant, parce que ça nous permet d'être indépendant aussi. Tous ces gros marchés, c'est souvent des contrats de 3 ans. Et puis, quand ils perdent un département, ça va être compliqué, je pense, en tant que gestionnaire de la société. Ça va être compliqué de voir à long terme sur ce genre de marché où c'est un peu tout double, en fait. Et nous, D'accord. on aime ça parce qu'on a plein de petits utilisateurs partout. Enfin, petits dans le sens, c'est pas des départements. Hein. Mais plein de gens, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous d'anticiper. On voit les tendances. Ça monte, ça descend, mais il va pas y avoir du jour au lendemain quelque chose où, je sais pas, on perd la moitié d'activité ou au contraire, on prend 5 fois l'activité. Donc, on apprécie ça aussi, cette indépendance. Et puis, de pouvoir, il y a des choix qui sont faits et qui, pour nous, sont pas utiles dans la définition académique de l'ENT. Il y a parfois certaines choses qui sont contraignantes au niveau technique, qui vont demander beaucoup de temps à développer, mais on voit pas la plus-value en classe. Et au contraire, on est une petite équipe, on préfère se concentrer sur des choses qui sont plus utiles de notre point de vue. Voilà, c'est ça. Mais on peut pas être sur les deux, courir trop de lièvres à la fois. Donc voilà.
D'accord.
Complément.
J'ai encore une petite question plus éthique par rapport aux ressources et après on passera plus sur l'utilisation bien évidemment. Mais est-ce que vous, à l'époque, si un outil comme celui que vous avez créé avait existé, est-ce que vous auriez été prêt à payer individuellement pour l'obtenir?
Sans doute. Sans doute, oui. Je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. C'est plus que ça coûte 10
euros. On peut en parler hein, des prix, allons-y rapidement. Ouais. Combien ça coûte pour un prof à l'année ou je sais pas comment les formules en gros?
Au plus haut, une licence individuelle pour quelqu'un qui le prendrait tout seul, c'est 12 euros par an.
Pour un seul. Donc ça reste dérisoire, on est bien d'accord. On est bien d'accord.
Et si on prend tous les outils dans un pack, c'est 24 euros l'année pour une classe. Donc ça fait 1 euro par élève.
Oui, d'accord. Ouais. Sur une petite classe, mais bon, ça reste pas cher. Non, je vous pose cette question puisque en tant que formateur, c'est le premier truc que je dis aujourd'hui aux stagiaires en tant que, voilà, je suis bien sûr pour l'école La République et l'école publique au maximum. Je dis, même si c'est tentant, moi-même, hein, dans toutes les solutions que j'utilise, il y en a beaucoup que je refuse d'acheter parce que c'est commencer aussi à pallier un manque de l'institution qui devrait nous fournir. C'est pour ça que je ne suis pas en train de remettre en question absolument la qualité de votre outil. Au contraire, je rêverais, d'après ce que Seb dit, qu'il soit finalement acheté par l'institution pour qu'il soit offert à tous. Mais est-ce qu'en commençant un petit peu, là c'est une question un peu générale, il n'y a pas de réponse à apporter tout de suite, à se dire si individuellement chaque prof fait un peu sa sauce dans son coin, est-ce qu'on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assise? C'est une réflexion que j'ai à titre personnel. Hein. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec ce que vous proposez. On est bien d'accord. Mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, dans le rapport que vous avez au prof. Est-ce que c'est des fois des choses qu'on vous a fait remonter ou est-ce que... voilà, je ne sais pas.
Ça dépend les outils. Sur EduLivret ou EduCartable, on a très, très peu d'enseignants qui vont le payer avec leur denier personnel. Ça reste des outils, c'est vraiment presque des
choses. Ouais, bien sûr.
Et du journal, c'est un peu différent. C'est vraiment un outil de travail, un agenda. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui l'achètent pour l'équipe. Hein. Il y a aussi des enseignants qui décident de se le financer tout seul parce qu'ils considèrent que.
On achète son propre agenda, de toute façon. Hein. Ceux qui fonctionnent avec des agendas papier, ils achètent leur agenda papier. Et ça, on n'attend pas qu'ils se fournissent. Voilà. On est bien d'accord, hein, tout à fait.
Après, plutôt le fonctionnement de l'éducation nationale à ce niveau-là. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas pu développer ça au sein de l'éducation nationale. À l'époque, après, c'est aussi en fonction des personnes qu'on peut rencontrer. À l'époque, moi, j'avais proposé ça à mon inspecteur. J'aurais rêvé d'être, j'avais postulé pour être ce qui est l'équivalent des runes aujourd'hui. La place était promise déjà à quelqu'un d'autre, je l'avais pas eu. Mais du coup, j'avais espéré à un moment pouvoir être déchargé de ma classe pour juste développer mon logiciel dans mon coin et le filer aux collègues en fait. Et l'éducation nationale, et c'est ça un peu le reproche que je ferais à l'éducation nationale dans son fonctionnement, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Ils n'ont pas les lignes budgétaires pour payer 2-3 bonhommes dans un coin sur une initiative. Si ça vient pas de plus haut d'une décision, en fait, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème souvent de ligne budgétaire, c'est qui paye, qui décide, et on se retrouve fait. Du coup, le seul moyen de faire vivre le projet à un moment, en fait, ça a été de quitter l'éducation nationale parce que on ne voyait pas d'avenir à ça. Moi, la réponse que j'avais eue de mon inspecteur, c'était « Ah bah oui, vous mettrez ça sur clé USB et puis on le mettra sur le site de la circonscription. » À aucun moment, il s'était posé la question de ce que ça pouvait être, c'était du ça.
Bien sûr.
Web, derrière il y avait de l'entretien, il y avait du développement à faire, c'était inimaginable et ça aurait fini dans un coin d'inspection quelque part dans une circonscription le projet aurait été enterré. Donc voilà, c'est dans l'idéal, oui, nous, on était tous les deux enseignants dans le public, avec la volonté, on est rentré dans l'éducation nationale aussi pour ça, pour ce sentiment du service public. Moi, j'étais la quatrième génération de profs dans ma famille. On avait, il y avait cette volonté-là. Mais malheureusement, c'était pas possible, en fait. Aujourd'hui, plus, il y a la direction du numérique, il y a vraiment une volonté d'accompagner les projets qui viennent de nous. Il y a 10 ans, c'était même pas la peine d'y penser, en fait. C'est un peu dommage. Et c'est aussi par ça que nous, on a pu se développer, c'était qu'on est arrivé il y a 10 ans. Donc, avant qu'on a été parmi les premiers, je dis pas qu'on a été les premiers.
Donc, nous revoici après cette longue coupure qui n'apparaîtra pas au montage sonore final. Donc, Gwenolé, on t'a un petit peu coupé au moment où tu nous parlais des Dumour et du fait que vous étiez apparu parmi les premiers, mais je m'aperçois qu'on a fait un impair pas possible. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les autres membres de l'équipe? Parce que, alors, on a bien compris que tu étais un peu plus du côté technique. Charlotte, elle était un peu plus du côté... Comment tu décrirais ton poste d'ailleurs, Charlotte?
Eh bien, il est hybride en fait, mon poste. Hein. Alors, je suis du côté utilisateur, on va dire. Donc, tout ce qui est support technique, réponse aux utilisateurs. Et puis, je fais plein d'autres choses hein, dans la boîte. Donc, je fais la communication sur les réseaux. Les réseaux sociaux, je gère le blog avec les collègues, et puis je fais aussi pas mal de manutention parce qu'on a des produits d'édition, des affiches, des frises, etc. Donc je fais aussi des cartons, enfin voilà, je fais plein de trucs.
Ouais, tu as gardé le côté prof des écoles, ça se sent.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et donc, qui vous entoure pour cette belle aventure?
Alors, je te laisse te présenter.
Eh bien, alors, de mon côté, il y a Stéphane Guillard, qui était, pour la petite anecdote, notre prof à l'UFM. C'était notre référent. Donc, on est restés copains. Et puis, de fil en aiguille, il nous a rejoints il y a 4 ans. Ensuite, on a Mélanie et Sébastien, qui sont sur le support utilisateur. Donc, c'est eux qui répondent aux mails, aux téléphones, qui créent aussi du contenu, donc les affiches, la frise, etc.
Technique, on a William, notre directeur technique. Lui, c'est un administrateur système de formation. Donc, c'est lui qui fait les réglages sur les serveurs. On a 2 développeurs aussi, Maxime et Julien. Et puis, sur la partie plus administrative, on a Mathieu, qui est un de nos associés, qui s'occupe de tout ce qui est RH, comptabilité, enfin bref, tout ce qu'on ne savait pas faire, nous. Et il est avec Emmanuel, qui, lui, est plus sur les relations avec les mairies. Et puis, depuis peu aussi, on a embauché Émilie, qui est une illustratrice, parce qu'elle travaille sur un projet... où il y aura plein d'illustrations, on en parlera quand ça se lancera. Et on a Flavien, un designer, qui travaille depuis quelques semaines avec nous, jour même, temporairement. Donc voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Je crois que c'est bon.
Je les vois presque compter sur leurs doigts, mais ça a l'air d'être correct. Donc toute cette belle équipe, pour un public qui se monte à combien de personnes, en fait, combien de collègues vous cernez?
Là, on est 12, en fait.
Alors, nous, dans l'équipe, et par contre, au niveau des utilisateurs, c'est difficile de chiffrer. On a presque 1 million d'utilisateurs inscrits, là, maintenant. Mais il y a environ 600 000 enseignants inscrits. Alors, plus ou moins actifs, mais en vraiment actifs, il y a à peu près 300 000 utilisateurs qui se connectent, qui se sont connectés le mois dernier, par exemple.
Sacré chiffre quand même. J'y pensais parce que je vous suis sur Twitter notamment, et j'avais vu passer il y a quelques temps quelqu'un qui ronchonnait un petit peu sur le fait de voir passer des remboursements à l'ordre des Dumouv', blabla. Enfin, et je crois que je sais pas si c'est toi qui t'occupes du communicationnel sur Twitter, Charlotte.
Non, c'est Gwenolé qui a gardé.
D'accord.
Voilà. Donc, j'avais vu lui répondre que ben oui, il fallait bien les entretenir, les serveurs, que vous ne faisiez qu'à la base partager quelque chose que vous aviez mis au point dans votre coin. Mais je me demandais, est-ce qu'il a été compliqué, et on en parlait un peu avec Guillaume tout à l'heure, quand il parlait d'acheter son agenda, etc. Est-ce que ça a été compliqué de passer à, ben, déjà, à convaincre les collègues de passer à un modèle payant ?
Pas spécialement, parce que... On n'a jamais fait, ça a toujours été clair, il y a des produits gratuits qui seront toujours gratuits, en particulier les fiches de PrEP qui ont été lancées dès le début. Et d'un autre côté, ce qui est payant, ça l'aide dès le début, disons qu'il y a une licence d'essai, mais il n'y a pas du freemium, il n'y a pas une petite partie qu'on pourrait utiliser sur laquelle on devrait passer au payant après. Les choses sont claires dès le début, ouais. Et puis c'est vrai qu'on est sur des montants à 12 euros par an pour une classe. Donc du coup, c'est pas non plus des montants exorbitants en fait.
Et puis il faut se dire aussi que les outils payants, ils évoluent beaucoup. On ajoute souvent beaucoup de fonctionnalités pour des augmentations de prix. Voilà, là on a augmenté les prix en avril 2019, ça faisait 4 ans qu'on ne les avait pas augmentés. On va dire que c'était juste de l'inflation en fait, hein. C'était pour nous, on n'a pas cherché à augmenter notre chiffre d'affaires à ce niveau-là. Derrière, ben, y a toutes les fonctionnalités qui évoluent et on n'est jamais, voilà, comme il dit, sur un modèle freemium où on va faire payer la fonctionnalité en plus. C'est compris dans la licence. Donc, en général, ça passe très bien.
Oui, oui.
Tout à fait. Je souscris à ce que vous dites. Je dirais même que vous avez un positionnement très clair. Alors que vous êtes dans la head tech et qu'on a des choses qui ne sont vraiment pas très claires, avec des boîtes qui sont parfois beaucoup plus grosses que vous. Nous, l'exemple qu'on a souvent pour parler, c'est Padlet, qui a démarré sur un modèle complètement gratuit. Et puis, au final, qui s'est un peu cassé la figure et qui est passé en payant, mais pas trop, mais tu sais quand même, si tu veux. Moi, j'étais longtemps un utilisateur d'Evernote qui a connu voilà, une trajectoire un peu particulière. Donc, c'est vrai que sur votre produit, les choses ont été claires depuis le début. Alors, j'aimerais revenir sur un aspect, moi, qui me taraude. C'est une question que je me pose. Comment est-ce que ça se passe, la collaboration avec tout le pôle technique, le pôle développement, pour que les produits tombent aussi juste ?
Alors, voilà. Déjà, on est pas mal d'instits dans l'équipe. Hein. Il y a Gwenolé, il y a
toi,
moi, il y a Stéphane, Mélanie et Sébastien. Donc, ça fait déjà presque la moitié. Enfin, jusqu'à il y a peu, c'était vraiment la moitié des effectifs. On est vraiment des purs instincts. Voilà, on a l'esprit. Et l'autre chose, c'est qu'on travaille beaucoup en collaboration, l'équipe technique et l'équipe d'instincts. Dès qu'on a des retours d'utilisateurs, on crée un ticket, on fait remonter aux devs, on en discute, on essaye de voir comment ça pourrait être intégré dans l'interface. Alors parfois, ce n'est pas toujours très beau, mais on se concentre vraiment sur les fonctions. On fait beaucoup en fonction des retours des utilisateurs, puis de notre... De ce que nous aussi, comment on ressent l'outil.
Mais, et puis aussi, on a développé surtout ce qui nous manquait quand on était, ouais. Nous, en classe, en fait. On avait un besoin, on le développait. On a essayé de garder une petite liste un petit peu, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout développer. Mmh. Et puis, chaque nouveau collègue qui arrive nous, dans l'entreprise et qui était instit arrive avec des idées aussi. Donc voilà, on essaye de dire ça, il ne faut pas lâcher le terrain en quelque sorte. En fait, c'est vraiment les besoins du terrain, on essaye de les sentir. On pose beaucoup de questions aux gens qui sont encore en classe. On a gardé une bonne partie de nos copains qui sont des instits forcément, parce qu'on a été instits longtemps. Et puis c'est bien connu, les instits font leur soirée ensemble en général et on parle des élèves. Et donc voilà, du coup, on est resté assez proche du terrain. En fait.
Ouais.
Petite pensée aux conjoints qui ne sont pas instits dans ces soirées.
Ils sont souvent très seuls, ça dure ces soirées-là.
Et vous avez parlé, ça fait deux fois que vous avez parlé des retours des utilisateurs. Charlotte, tu as parlé tout à l'heure des innovations qui étaient faites. Et Dieu sait qu'il y a eu une période, encore un peu trop récente à mon goût, où il y en a eu pas mal d'innovations à un moment. Je revenais le matin, je disais alors attends, ils ont rajouté un truc, mais c'est pas encore dit. Là, ils ont rajouté encore un truc, mais c'est pas. Voilà. Ouais. Ça a été le confinement. Comment ouais. L'entreprise, vous-même, à titre pro, vous avez vécu ce confinement? sachant qu'on sait que toutes les entreprises qui sont basées sur des serveurs comme la vôtre, elles ont, alors on va parler un peu trivialement, mais sacrément morflé.
Eh ben, il y a eu deux phases en fait. Hein. Comme tu dis, on a pas mal morflé. Ça a été un peu rock'n'roll les trois premières semaines, surtout la première semaine du confinement à partir du lundi 16. Bon, un peu avant, quand il y a eu l'annonce des fermetures d'écoles, dès le vendredi, c'était déjà chaud. Mais le lundi, on a pris une sacrée charge. Le lundi matin, ben, comme tout le monde. Le site a été plus ou moins inaccessible. Les gars, que ce soit William, Guéno, ont beaucoup bossé pour ajouter des serveurs. Souvent, ils faisaient ça la nuit parce que ben, il y avait personne sur le site. Donc voilà. Et puis le jour, il fallait être sur le pont pour aider les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, surtout les familles en fait qui arrivaient sur le site, les enseignants qui découvraient l'outil sur le tas. Donc voilà, les trois premières semaines, ça a été assez compliqué. Et puis après, il y a eu comme une vitesse de croisière, on va dire, alors rapide, mais où on a du coup, on a eu plein de retours, voilà, des utilisateurs et des besoins qui n'avaient pas émergé jusqu'à présent, qui se sont révélés au moment du confinement, comme par exemple ben, permettre aux familles de renvoyer des fichiers joints aux enseignants. Permettre aux enseignants d'avoir une page de suivi des messages de chaque élève parce que c'était il y avait beaucoup d'individualisation, beaucoup de personnalisation des devoirs et des messages et donc voilà, on a beaucoup travaillé dans cette période là mais c'était génial en fait, c'était hyper galvanisant pour nous aussi, nous dire purée, demain on met en ligne un nouveau truc, ça va rendre service à plein de gens. Et comme tu dis, effectivement, même moi sur le plan de la communication, j'avais même du mal à suivre parce qu'il y avait des fois les nouvelles fonctions étaient déjà là et j'avais même pas encore eu le temps de le dire, les gens l'avaient déjà sur Éducartable.
Et c'est vrai que sur la partie technique, nous, toute l'équipe s'est mobilisée aussi. On s'est dit, bon, bah, on met le paquet sur Éducartable, on fait que ça, et on a développé. Vraiment le soir, la nuit, et puis il y avait aussi toute cette vague d'utilisateurs qui est arrivée et qui a un peu tout balayé devant eux. Et on a pu aussi faire beaucoup d'optimisation sur les serveurs parce que on était dans des conditions qu'on n'avait jamais eues. Alors c'était hyper chaud, mais en même temps on a aussi beaucoup appris sur l'infrastructure, parce qu'on connaissait bien notre infra, mais elle a été tellement poussée qu'on a aussi beaucoup appris, beaucoup amélioré de choses au niveau sous le capot. En fait, on a fait plein de réglages et on a multiplié. Par contre, on a été obligé de multiplier les serveurs par 8, 10, même tellement ça a été important. On avait une quarantaine de machines en rythme de croisière en fait, pendant tout le confinement.
J'imagine qu'il y a eu un petit retour à la normale depuis.
Oui, là, on a une vingtaine au total de machines sur l'ensemble de nos services. Et là, c'est un peu différent. On voit la vague qui arrive, mais c'est beaucoup plus régulier quand les parents se connectent le soir, 17h, 17h30. On voit hop, le pic de connexion, mais on le suit, ça, on peut l'anticiper. C'est pas comme le confinement où chaque jour, on disait, bon, on a passé la vague, ça y est, là, on est bon, je pense. Et puis le lendemain, ça recommençait, il y avait encore plus de gens et encore plus de gens pendant les deux premières semaines, parce qu'il y avait tellement d'inscriptions, il y a eu 100 000 inscrits en quelques jours en fait. Et donc cette vague-là, on n'arrivait pas à l'anticiper parce qu'on ne savait jamais combien de gens s'inscriraient en plus le lendemain en fait sur Éducartable. Mais ça a été super stimulant.
Oui.
On imagine. Non, mais c'est bien que vous ayez retiré du positif de ça. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, j'en ai l'impression. Tu as parlé de pics de connexion. Moi, j'imagine qu'il y a certains moments dans l'année où vous en avez des pics qui sont très faciles à deviner, quand c'est le moment de rendre le LSU, par exemple. Est-ce que ça, par contre, c'est quelque chose que vous maîtrisez de façon assez évidente ou il y a encore des surprises ?
Non, on n'a plus de surprises. On en a eu en 2014. La première fois, c'est à l'époque, on était tous les deux, on travaillait sur le site tous les deux.
J'étais encore en classe.
J'étais encore en classe.
Je travaillais, mais...
C'est vrai. Et on n'avait pas de monitoring, on ne connaissait pas tellement l'état de santé des serveurs parce que ce n'était pas mon métier. Moi, je développais comme ça. Et en 2014, en juin, tout est tombé. Le site s'est vraiment écroulé tellement de gens généraient les livrets, en fait. Et c'était la création des PDF qui faisait fondre les serveurs. Et c'est à ce moment-là, justement, que William, qui est aujourd'hui notre administrateur système, est venu en nous disant bah, « Ma copine est un site, elle m'a dit que vous étiez dans la merde, est-ce que vous voulez un peu de main ?» Ça s'est fait complètement par hasard. Et après, on a beaucoup travaillé les années d'après pour tout automatiser. Donc maintenant, quand il y a un pic de charge, on rajoute des machines même en automatique, en fait. Donc ça va très vite, on peut l'anticiper. Et puis surtout, on sait que les fins de chaque trimestre, il y a du monde. Donc on triple, on quadruple les capacités des serveurs, mais pendant un mois, en fait.
D'accord.
On a l'infrastructure maintenant qui permet de le faire juste pour un mois.
Alors, en parlant de LSU, j'y repensais. Comment vous avez vécu l'arrivée de cette petite révolution ? Est-ce qu'à un moment, ça vous a fait craindre que ben, ça y est, on a perdu notre raison d'être parce que là, les livrets, il va falloir les faire. Ils correspondent plus. Il y a une plateforme qui arrive, qui va tout bouleverser. Ou vous avez eu cette attitude, bon, un peu à ma façon, de se dire, ouais, bon, ben, ça va, quoi. C'est pas la boîte qui fait tenir, qui fait, comment dirais-je, qui fait aller ses administrés sur e-prof qui risque de nous pondre quelque chose d'effrayant.
C'est un peu entre les deux, en fait. On a un peu craint, effectivement, l'arrivée du LSU. On s'est surtout dit que, parce qu'on n'a pas eu tout de suite hein, le connecteur avec le ministère pour faire remonter les LSU, ça a pris plusieurs mois. Donc on s'est dit, ben, en fait, les gens ne vont plus venir faire les livrets sur EduMove, ils vont aller directement sur le LSU puisque ça va devenir obligatoire. Et puis même si EduLivret n'est pas dans le même état c'est pas le même état d'esprit que le LSU, on s'est dit, ben, forcément, les gens ne vont pas faire un double travail si on n'arrive pas à avoir le connecteur. Et on s'est aussi dit, bon, peut-être que c'est un feu de paille. Du coup, dans le doute, on a vraiment travaillé toute une année quasiment pour adapter et du livrer au LSU et permettre justement que grâce au connecteur, il n'y ait pas une double saisie pour les enseignants et qu'ils puissent à la fois bénéficier des outils du livret, tout le suivi, les statistiques, etc. Et en même temps, pouvoir à la fin éditer un LSU conforme aux attentes ministérielles et le faire remonter.
Mais c'est vrai que pendant ces mois-là d'attente, on ne savait pas où on allait. Nous, le livret, c'était vraiment le produit phare et ça représentait à ce moment-là 80% de nos revenus peut-être. Ouais. Et on se disait, bon, bah, on va retourner en classe. On s'est dit à un certain moment, ça y est, ça va être fini en fait. Et heureusement qu'on a pu avoir ce connecteur. Et d'un autre côté, c'est assez paradoxal, ça a aussi boosté les choses. C'est que ce produit, alors on ne l'avait pas inventé, mais parce que d'autres l'ont fait aussi. Notre confrère de chez Livreval, par exemple, on s'est lancé à peu près en même temps. On a été plusieurs à lancer des livrets comme ça en ligne, mais il y avait peut-être 15% des enseignants en France qui utilisaient ça. L'arrivée du LSU a aussi permis à tout le monde d'accélérer le studio. Donc nous, ça nous a boosté aussi l'année de mise en place du LSU. Par contre, c'est vrai que l'année d'après, tout le monde avait choisi son outil. Donc voilà. Ça a vraiment, par contre, bouleversé la situation.
L'utilisation du numérique pour évaluer les élèves. Ça, oui, ça fait évoluer les pratiques.
Ça, entre ça et le confinement, décidément, il y a eu des petits moments de boost. Oui. Alors, pour vous donner mon avis personnel, je préfère largement la version que vous donnez du livret que la plateforme officielle. Ne serait-ce que pour un détail qui, à chaque fois que je montre un livret fait sur EduMove, a son petit effet sur les petites tirettes que l'on peut mettre d'avancée dans chaque... Alors ça, c'est... Voilà, pouvoir mettre un état d'avancement de chaque grande compétence, ça fait son effet à chaque fois. Là, j'ai eu des conseillers pédagogiques, etc. À chaque fois, quand ils m'ont demandé « Mais où est-ce que tu fais ça ?» J'ai fait « Regarde, c'est sur EduMove, c'est super pratique. » Du coup, dans tous les services que vous faites, donc on a parlé d'EduLivret, on a parlé rapidement d'EduPrep, On a parlé d'Éducartable, bien sûr. C'est lequel qui représente l'essentiel de votre activité maintenant? Ou est-ce que c'est partagé entre les différents?
C'est toujours du livret.
Le livret.
Ouais.
Le livret, c'est vrai qu'il y a 50 000 classes qui l'utilisent. Mmh. Et on a presque 20 000 qui utilisent Éducartable. Ouais. Et à peu près autant d'enseignants qui utilisent le cahier journal. C'est les trois produits aujourd'hui pour lesquels il y a des licences. Donc voilà, le livret, c'est à peu près la moitié. Ouais. Après, on a l'édition aussi qu'on avait lancé un peu par hasard pour essayer. On avait envie de se diversifier, de faire autre chose. Et ça, c'est un complément, on va dire, mais ça reste le livret.
Ouais.
Bon, en plus, il faut le dire, parce que là où c'est très complet chez vous, c'est que certes, on peut éditer un LSU, mais on peut éditer des bilans détaillés des compétences, on peut éditer des bilans statistiques des élèves. Moi, je sais que ça a revu ma communication avec les parents, tout ça. Vraiment, c'est des outils que je trouve tellement efficaces. Quand on a un entretien avec des parents, pouvoir leur montrer un bilan statistique de l'enfant, pouvoir parler avec eux, pouvoir à la place du LSU, parce que le LSU est très synthétique normalement, leur sortir le bilan détaillé, etc. En tant que professionnel, on arrive avec bien outillé. Franchement, bravo.
Là, merci.
Mais merci à vous. Dans le positionnement d'Éducartable, ça fait partie des grandes modes actuelles de des applications de messagerie. Donc, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Comment vous vous repérez par rapport à la concurrence qui commence? Parce que là, on est dans une phase, j'ai l'impression, où tout fourmille. Tout le monde essaye un peu. Alors, moi aussi, hein, j'ai fouillé, j'ai essayé, etc. Puis finalement, comme j'étais déjà avec EduMove pour le livret et pour le journal, j'ai fini par être pour EduCartable. Et je n'en regrette pas. Mais comment vous vous situez par rapport à cette EdTech dédiée à la communication avec les familles dans le monde enseignant?
Alors, nous, on s'est lancé un petit peu plus tard sur la partie messagerie, justement, et communication avec la famille. Donc, c'est vrai que sur la partie, on savait un petit peu ce qu'il existait déjà. Donc, on a essayé vraiment d'axer les choses sur la partie scolaire. C'est-à-dire que on définit pas tellement, en fait, Éducartable comme une application de messagerie, parce que sur la partie purement messagerie, on fait moins bien que d'autres. Par contre, ce qu'on a dans notre système, c'est la partie... Déjà, on a des élèves qui sont vraiment au cœur du système parce qu'on les avait déjà en fait en base de données. Et donc, on a la partie cahier de texte, la liaison avec les domaines disciplinaires, des choses comme ça. On l'a vraiment conçu pour du suivi. C'est pour nous une application de suivi scolaire plus qu'une application de messagerie, en fait. Et c'est, par exemple, le fait d'avoir intégré en cours d'année dernière les exercices en ligne à faire directement dans l'application. On avait passé un partenariat avec le pédago et puis on travaille sur un outil à nous aussi pour pouvoir faire de l'exercice en ligne. Pour nous, c'est vraiment différenciant à ce niveau-là. Et puis surtout, on tient vraiment, nous, à ce que notre modèle économique reste parfaitement clair. Bon, après, il y a plein d'entreprises qui ont des modèles différents d'une autre. Nous, on veut vraiment être clair et que l'école sache que c'est au service public de fournir un service qui soit gratuit. Ça nous semble important aussi parce que la neutralité commerciale, en fait, dans l'école, c'est quelque chose qui fait partie des devoirs, en fait, du fonctionnaire. Et en tout cas, notre interprétation, nous, des textes, et puis aussi nos valeurs. On ne veut pas aller, en tout cas, sur... enfin, voilà, on préfère avoir un modèle économique qui soit clair, où c'est l'école qui paye et que c'est gratuit pour les familles. Donc ça, pour nous, c'est différenciant. On pense que c'est quelque chose d'important.
Pour nous, Éducartable, c'est une fourniture scolaire. Ça doit être gratuit pour les familles. C'est l'école qui fournit le matériel de communication. Si c'était un cahier papier, ben, ça serait l'école qui l'achèterait. Donc, le format numérique doit aussi être proposé par l'école gratuitement aux familles.
Les éditeurs de cahiers ou de manuels scolaires ne mettent pas des pubs dans les manuels pour les familles en leur disant « achetez mon cahier de vacances », par exemple. Donc, voilà, on considère que c'est quelque chose pour nous... On ne comprend même pas que ça existe, en fait.
Ça doit être accessible aujourd'hui à tous, quelles que soient ses ressources. Toutes les familles doivent pouvoir y accéder.
Et je vous je vous comprends tout à fait. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu chez vous. Je vais même vous dire, il y a eu. J'ai essayé, comme j'ai tendance à le dire, à le répéter, j'en ai essayé quelques-uns avant vous. Et parmi ceux-là, il y en a un qui se cherchait. Et ça se voyait beaucoup sur le modèle économique. Et quand un beau matin, il a fait une espèce de jeu concours qui était apparu en publicité, en plein milieu dans des messages aux familles. C'est à partir de ce moment-là, c'est amusant, j'ai vu sur Twitter aussi les mêmes réactions de collègues où on s'est dit, bon, ben, là, vous nous avez perdus. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très important que vous ayez vous avez une société, voilà, dans la société technique d'aujourd'hui qui n'est pas évidente, mais ce n'est pas ça, et pas que ça. Vous avez aussi des valeurs et ça se ressent dans chacun de vos produits. Ça fait partie des choses que j'adore chez vous.
Ben, merci, on y tient en tout cas, c'est sincère parce qu'on a envie de réussir. On se dit que c'est toujours plus difficile en fait de garder une ligne comme ça propre en fait.
Éthique.
Forcément, quand on voit pour un enseignant il y a 25 familles, c'est vrai que c'est.
Ça pourrait être tentant
de se dire allez, on va vendre aux familles, mais ça nous semble tellement. Inimaginable et immoral en fait, ouais, voilà. On préfère pas aller vers ça.
C'est pas valeur.
Oui, un petit abonnement sur 25 familles, si c'est mensuel, ça commence à chiffrer pas mal. Nous sommes d'accord.
C'est trop facile, quoi. Ça fonctionne pas comme ça, quoi. Il faut pas que ça fonctionne comme ça, en tout cas. On n'a pas envie de contribuer à la marchandisation de l'école, quoi.
C'est pas un marché, ouais, l'école. Mm. Nous, on est pour le service, en fait.
On va parler deux petites minutes marché. J'aurais aimé avoir votre avis, si ce n'est pas trop difficile pour tout vous dire, en fait, c'est presque une question qui vient de collègues de podcast que j'ai entendu chez Nipédu. À l'époque, Fabien parlait de vous en vous donnant comme exemple de réussite dans la EdTech et dans le domaine du primaire, parce que le primaire en France souffre une grosse difficulté, c'est que son marché est au niveau des mairies. Alors, est-ce que c'est très difficile de réussir à avancer dans ce marché. Bon, on part un peu dans le côté merchandising, mais je m'en fiche. Est-ce que c'est très difficile ou est-ce que vous avez trouvé votre place ou est-ce qu'en définitive, le bouche à oreille, tout ça, ça fonctionne quand même?
Oui, oui, en fait, c'est un peu tout ce que tu dis, c'est tout à fait ça. En fait, nous, on connaît, vu qu'on vient de l'école primaire, on connaît le mode de financement des outils à l'école. On sait que ça passe par la mairie, mais on sait aussi que les enseignants ont quand même beaucoup de liberté dans le choix de leurs outils, justement. Donc, du coup, au départ, c'est souvent les enseignants qui découvrent l'outil, parfois qu'ils l'achètent sur leur denier personnel la première année. Et puis ensuite, c'est souvent une commande d'école. Et ça passe voilà, dans le budget fourniture scolaire de la mairie. Étant donné les tarifs, en général, ça ne pose pas de soucis. Voilà. Non, on n'a pas trop de difficultés en fait, avec le mode de fonctionnement des écoles.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le marché de l'école primaire est complexe pour des gens qui voudraient venir de l'extérieur. Mmh. Et ça crée une sorte de barrière à l'entrée aussi. C'est pour ça, un autre exemple de boîte d'instit qui fonctionne super bien, c'est Mon École. Monécole.fr, je pense que tu connais.
C'est un copain. Hein.
Laurent, c'est devenu un copain. Et ils ont aussi ils sont pragmatiques, ils ne se posent pas de questions. Ils savent qu'on ne peut pas vendre un truc plus de 20 euros par an à une classe. Et du coup, ça, il s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a beaucoup poussé en lui disant « Allez, vas-y, monte ta boîte toi aussi, il faut plus de gens comme toi. » Et ça a marché parce qu'il connaissait en fait le système, en quelque sorte, de financement des écoles. Et on est content que ça soit des gens comme ça, des petits qui puissent se développer parce qu'il n'y a pas de marché départemental ou régional où les gros, voire les très gros, les GAFAM par exemple, ne peuvent pas juste envoyer un super commercial qui va aller discuter avec la personne tout en haut de la hiérarchie, parce que c'est un peu ça aussi sur le secondaire. Il suffit de s'adresser, enfin il suffit. Disons que la bagarre se joue à un niveau auquel nous on n'est pas capable d'aller jouer dans cette catégorie-là en quelque sorte. C'est des grosses entreprises en général qui sont sur le secondaire, et donc ça. Le primaire permet aussi à des petites initiatives, des petites entreprises de se développer et donc potentiellement des boîtes fondées par des enseignants. Et justement,
par le bouche à oreille, on se fait connaître. C'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, voilà, chacun enseignant garde sa liberté justement de choisir ses outils. Et c'est ça qui est bien.
Alors, je vais vous proposer une petite question de fiction maintenant. On a parlé tout à l'heure de l'arrivée du LSU. Qu'est-ce que vous auriez dit si, bon, c'est vraiment de la fiction, si au lieu de développer la plateforme nationale telle qu'elle est actuellement, les pontes de notre ministère seraient venues chez vous en leur disant, écoutez, on sait ce que vous savez faire, voire même après la mise en place du LSU, on a vu ce que vous savez faire, vous avez fait mieux que nous, on vous rachète. Vous nationalise. Est-ce que ça aurait été une revanche du coup par rapport à ce que tu disais de développer dans ton coin au début et que les instances n'avaient pas réalisé ce que c'était. Est-ce que ça vous aurait branché?
Moi, c'est une idée que j'aime pas mal. J'aime bien le principe de start-up d'État. Je crois que c'est la DNE qui avait utilisé cette expression-là pour parler de l'unité, puisque c'était gouvernemental, qui avait développé PIX, le truc qui a remplacé le B2I, mais que pour le secondaire. Après, tout le monde a oublié qu'il y avait un B2I en primaire. Ça, c'est anecdotique. Mais par contre, j'aime bien le système de se dire une entreprise peut avoir une certaine légèreté, une certaine agilité que n'a pas la fonction publique. Et à contrario, la fonction publique a ce devoir, cette notion de service public, c'est quelque chose qui nous semble important. Et l'association des deux, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire des entreprises dont une majorité du capital, par exemple, est détenue par l'État, par un acteur public. Je pense que ça serait sécurisant pour tout le monde parce que les utilisateurs pourraient se dire « Ok, il y a l'État en arbitre, ils vont pas faire n'importe quoi. » Et en même temps, le fait d'avoir une certaine indépendance et un budget propre, indépendant du reste de l'éducation nationale, permettrait d'aller vite, de prendre des initiatives, de se dire « Tiens, on va tenter un truc, on développe. » Donc voilà, j'aime bien ce format-là et oui, ça nous aurait plu à l'époque s'ils nous avaient proposé ça. C'est pas quelque chose que je trouverais choquant pour l'avenir, en tout cas un jour, peut-être après avoir été dans le public puis dans le privé, revenir dans le public avec du mou sous le bras, pourquoi pas.
Ça serait amusant. Ça serait franchement amusant. Bon, je crains que non.
La fiction.
Ouais, je crois que c'est la fiction.
Pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas ce genre de choses, mais pourquoi pas.
Après, il faudrait qu'on garde quand même de la liberté.
Mais justement, ouais, voilà. Un mélange des deux, c'est pour ça que je dis une partie, être détenu en partie par l'État, ça peut être intéressant.
Ou vous donner la gestion de la partie LSU tout en vous gardant en tant que société privée. C'est une délégation de services d'État, service public, ça se fait. Mais bon.
Oui, mais là, ça commence à être. Ça veut dire de rentrer dans des choses beaucoup plus compliquées. C'est pas de notre niveau, ça aussi. Il y a des choses. On est trop petit pour certaines choses comme ça.
Je comprends bien. Alors, on va revenir à des choses qui sont de votre niveau. Vous m'avez alléché tout à l'heure, alors j'y reviens un petit peu. Alors, moi, sur EduMove, alors, je connais du prep, pas de souci. Et du journal, merci. Et du cartable, j'en parle plus. Et du livret, c'est mon petit chouchou, voilà, et du étiquette, que bon, là, moi, ça me concerne moins, forcément, je suis pas en maternelle, donc, voilà, mais je me dis, il y a des services qui sont affichés parfois, mais en cours de développement, alors, est-ce qu'il y a un service qui arrive bientôt, est-ce qu'il y a un gros truc qui arrive bientôt, ou en fait, vous avez encore un petit service à la et du étiquette qui va arriver, qu'est-ce que ça va être?
C'est un gros projet. C'est vrai qu'on a mis un petit, ça s'appelle EduForge, en tout cas nous, le nom en interne. Forge parce que l'idée, c'est vraiment de faire une forge pédagogique, donc c'est-à-dire pas être dans les outils pour l'enseignant, mais les outils pour l'élève en fait. Et donc du coup pouvoir construire de façon semi-automatisée des ressources pédagogiques, donc des exercices, des leçons, des choses comme ça, et pouvoir se les partager entre collègues et les intégrer dans des parcours de réussite, en fait, ou des parcours en ligne pour les élèves. Donc voilà, c'est un gros projet sur lequel on travaille depuis très longtemps maintenant, ouais. Enfin très longtemps, plusieurs mois. Ça s'est un peu interrompu parce que il y a eu le confinement l'année dernière, etc. Mais on n'a pas de date pour l'instant de sortie, puisqu'on y travaille encore. Mais dans les mois qui viennent, on sortira des versions bêta, on commencera à le montrer dans les mois qui viennent. Mais on en est très fiers, en tout cas ce sur quoi on travaille, ça nous plaît beaucoup. Il y a encore du boulot, oui. Mais on pense que ça va vraiment changer, on espère changer pas mal de choses justement sur la manière de préparer ou de construire une ressource pédagogique.
Waouh. Ça donne un petit peu envie, je ne vous cache pas.
Bon
boulot. Ouais, c'est pas encore sorti. Hein.
Oui, mais maintenant, vous en avez parlé. Voilà.
On en a parlé.
Qu'est-ce que je pourrais vous demander de plus? Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à EduMove là, pour la suite? Pour cette année, à part un non-confinement, hein, ce qu'on va souhaiter à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite?
Mais écoute, de continuer comme ça, en fait, pouvoir continuer à développer des outils cool qui nous plaisent et puis qui plaisent aux collègues en classe. Et puis, pourquoi pas, enrichir, enfin, augmenter l'équipe, avoir un petit peu plus de confort en termes de développement. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous plairait pas mal. C'est parce que là, ben, on manque quand même de bras. On va dire, on est plus souvent à dire aux collègues, ah oui, ça serait bien, mais là, ça va pas être possible. En fait, on n'est pas assez nombreux. Ce serait vraiment cool, c'est de pouvoir continuer comme on fait, mais en disant, ah oui, bonne idée. Ben, écoutez, dans une semaine, on le sort.
On met 10 bonhommes dessus, voilà,
ça serait notre rêve. Voilà, moi, je crois que c'est un peu utopique, mais voilà, ça serait vraiment chouette. Pouvoir continuer comme ça, mais un petit peu plus complet.
Une équipe un peu plus dense.
Ouais. Ouais. Même au support, hein, là, on le voit cette année, on est un petit peu en sur-régime tous. Donc voilà, être un petit peu plus nombreux, un petit peu plus à l'aise.
Mais on est en sur-régime depuis le début. En
fait. Ouais, mais là, pas mal quand même. Là, ouais, on le sent. Alors, c'est peut-être qu'on est fatigué du confinement aussi, de toute l'année qu'on a passé, mais c'est vrai que la rentrée est un peu rude, mine de rien. Il y a pas mal de boulot.
Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on va vous souhaiter. Je vais vous proposer qu'on termine l'émission ici. Okay. Je vais vous remercier une énième fois de votre gentillesse et de votre patience. Malgré les soucis techniques que l'on a pu rencontrer. Un petit mot pour la fin, sinon.
Ben, merci à toi de nous avoir invités. Ouais. Et puis, merci aussi surtout à tous les enseignants qui nous ont permis un jour d'être invités sur le podcast des Teachers, qui est quand même notre consécration. Mais on veut remercier les gens qui ont cru en nous depuis le début parce qu'on s'était lancé à partir de rien et c'est grâce aux gens qui nous ont suivis qu'on peut faire ce qui nous plaît et puis on espère que ça plaît aussi quoi. Donc merci.
Ouais, merci.
C'est sur ces quelques mots que je vais terminer cette émission. Alors, vous l'avez entendu au début, il y avait Guillaume que vous pourrez retrouver sur Twitter avec WillowTeach, Will-Teach. Vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi avec @tuteur, STUTEUR. Et ben, je vais vous dire à la prochaine. Au revoir.